Voilà, donc on arrive à notre deuxième thème que j'intitule « Les essentiels d'une identité saine ». J'ai mis le psaume 139, verset 14, que j'ai déjà cité ce matin. « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » C'est comme, pour certains d'entre nous, c'est un objectif à atteindre, pouvoir le dire sincèrement, honnêtement, de tout notre cœur. Alors, avant de parler de ce qui constitue une identité saine, j'ai pensé que ce serait bien qu'on puisse voir certains comportements, j'appelle ça des comportements révélateurs d'une identité qui est mal fondée. Une identité qui n'a pas d'assises solides, mais où on s'appuie sur des choses extérieures à nous. Parce que très souvent, pour nous rassurer de notre valeur, on va chercher des béquilles, on va se comparer, etc. Alors, je vais vous décrire un certain nombre de comportements révélateurs. J'en ai peut-être comme une dizaine, là. Alors, accrochez vos tucs. On va voir certains comportements qui peuvent être révélateurs. Le premier comportement, c'est le perfectionnisme. Oui, Joël, tu t'identifies tout de suite. Joël vient de dire « C'est moi! » Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si tout le monde veut le faire au fur et à mesure, « Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Gênez-vous pas. Alors, le perfectionniste, vous dit que dans certains cas, moi, j'aime quelqu'un qui soit perfectionniste, surtout si c'est mon chirurgien. Hein, on est d'accord avec ça, hein? Hein? Ou si tu es un astronaute, si tu veux que les gens... au centre de contrôle, soit très perfectionniste, parce que tu ne vas pas péter avec la fusée quand elle va décoller, n'est-ce pas? Il y a des perfectionnistes qui font de très, très bonnes montres aussi. J'ai rencontré un Suisse qui, lui, son travail, c'était faire une montre par année, montée de toutes pièces, faite à la main, sauf une, je pense. Et ça coûtait, à la fin de l'année, 750 000 francs suisses, qui est environ 1 million. Alors, ça, c'est... Hein? Ouais, celle-là ici, mais on va la faire tirer à la fin pour celui qui mise le plus, non? OK. Donc, oui, il y a des bons perfectionnistes, mais il y a un mauvais perfectionniste. Le perfectionniste qui va baser son estime de soi sur ses performances, sur le résultat de ses actions. Il va s'évaluer selon ce qu'il fait. Puis sa pensée, ça va être celle-ci. Si j'échoue, je suis un échec. Ça, c'est un perfectionnisme nuisible. La personne va dire « ce que je fais, c'est ce que je suis ». L'activiste. L'activiste, lui, est toujours en train de devoir faire, parce que ça remplit comme un vide intérieur. Il ne peut pas tolérer le silence, il ne peut pas tolérer n'avoir rien à faire. Et pour lui, « je suis parce que je fais ». Parce que dans deux sens. P-A-R, espace, ce que je fais, ou P-A-R-C-E, parce que je fais. Une petite nuance ici. Alors, donc la personne va avoir de la peine à s'arrêter, elle va peut-être expérimenter le burn-out, l'épuisement, parce que pour elle, elle a de la valeur si elle fait des choses. L'égocentrique, c'est celui qui va rechercher constamment l'attention dans un groupe. Alors, ils vont arriver dans un groupe, puis là, ils vont chercher à être le centre d'attraction. Et ils ne vont pas le dire, mais ça va être comme « remarquez-moi, aimez-moi, admirez-moi ». Et le fait d'avoir l'attention du groupe, là, ça va leur donner un sens de valeur. J'ai de la valeur parce que les gens me voient, les gens m'admirent. Je me souviens, il y a longtemps de cela, quand j'étais moniteur au camp jeuneur, près de l'auberge du Petit Bonheur, dans Sainte-Agathe, je ne sais pas si quelqu'un a connu cet endroit-là, un endroit magnifique. Et puis, on avait quelqu'un parmi nous qui était un moniteur. On s'était retrouvé après le camp. Ce moniteur-là prenait beaucoup de place. Puis, quelqu'un de l'équipe a osé dire, « Toi, c'est me, myself and I. Oh, » ouais. Moi, je, moi, moi-même, style. Alors, c'était une description assez blessante quand même, mais réelle, du fait que cette personne-là a accaparé l'attention de tout le monde. Alors, la personne va évaluer sa valeur en fonction de sa popularité. Alors, l'effet contraire, c'est si je ne suis pas populaire, il faut croire que je n'ai pas beaucoup de valeur. La compétition. Alors là, c'est quelqu'un qui va être incapable d'accepter la défaite. Bon, il y a une bonne compétition, hein? Comme les Canadiens de Montréal, ben, je suis content quand ils gagnent, puis Puis on espère qu'ils vont continuer de gagner plus qu'au début de la saison cette année, puis que Carey Price ne va pas se faire blesser, etc. Et puis moi, les Alouettes de Montréal, c'est aussi mon club de football, et puis là, ça fait 3 ans qu'on mord la poussière, c'est moins drôle. Mais on veut que les gens soient compétitifs, on veut gagner. Alors moi, j'aimais beaucoup jouer au badminton, par exemple. Vous savez que le badminton peut être un sport violent, pour ceux qui pensent à un sport... C'est un très bon sport, et c'est cardiaque. C'est beaucoup plus cardiaque que le tennis, par exemple. Et moi, quand je commençais à jouer à certains gars, on avait un gymnase de jeunesse en mission, puis on s'éclatait comme des malades pendant 20-30 minutes en sueur, après, dans une gymnase pas chauffée à 5 degrés l'hiver. Mais on s'éclatait. Au début, quand je gagnais, j'étais content, mais après ça, je commençais à me faire battre par ces plus jeunes que moi, constamment. Alors, il fallait que j'accepte de me faire battre. Parce que si j'échoue ici, si je perds, je ne suis pas un échec pour autant. Mais pour des gens, s'ils ne sont pas les meilleurs, ils vont être démoralisés. Leur image d'eux-mêmes vont prendre un coup. Alors, pour se rehausser, parfois, les gens vont critiquer les autres. À ce moment-là, si je critique l'autre, je vois quelqu'un a un défaut. Ah, moi, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Alors, ça, c'est une compétition basée sur une mauvaise image de soi. Il y a le sentiment d'infériorité. Sentiment de ne pas être capable d'être moins bon que les autres. Alors, je m'évalue en fonction des autres personnes autour de moi. Je me compare. Je ne suis pas aussi beau, je ne suis pas aussi fort, je ne suis pas aussi grand, je ne suis pas aussi belle, je ne suis pas aussi capable. Et on tend à se rabaisser. Puis quand les gens font un compliment, ils disent, oh, c'est pas, ça pourrait être mieux. Alors, sentiment d'infériorité. On s'évalue en fonction des autres personnes. Alors, cette personne-là ne sera jamais fière d'elle-même, jamais satisfaite. Et en se sentant inférieure, même ça va peut-être la pousser à faire des gaffes par maladresse, par complexe personnel. Il y a aussi la pitié de soi. Pauvre de moi. Alors, c'est la personne qui va être repliée sur elle-même. Elle va s'enfermer. Et elle va être portée facilement à se plaindre. Oui, elle a vécu des injustices, elle a vécu des choses qui n'étaient pas juste dans sa vie, mais souvent, elle va rester dans la plainte et elle va dire, c'est la faute à tout le monde. C'est la faute aux autres. Puis elle va rester là-dedans. Et puis, elle va essayer d'attirer l'attention pour que les gens disent « pauvre toi, c'est pas drôle », etc. Puis, elle va vouloir rester là-dedans. Et elle va dire « ben personne m'aime, personne ne s'intéresse à moi, personne ne passe du temps avec moi, donc je vais m'occuper de moi par moi-même. » Elle devient le centre de son attention pour elle-même. Il y a la manipulation. Et elle peut aller dans deux sens, cette manipulation-là. Ou bien c'est moi qui manipule l'autre pour que l'autre m'aime, ou bien c'est moi qui se laisse manipuler par l'autre. Alors, la manipulation où je manipule l'autre, c'est que je vais essayer d'attirer, de gagner l'attention, soit par des cadeaux que je vais donner. Des fois, c'est bien de donner des cadeaux. Ma femme, elle aime ça faire des cadeaux. C'est son don, un de ses dons. Mais donc, ce n'est pas qu'elle a un problème, c'est qu'elle a un don. Mais parfois, il y a des gens qui vont faire un don, mais avec une ficelle accrochée. Aime-moi. Parfois, c'est des flatteries envers l'autre. Ah, oh, que tu es gentil, oh, que tu es fin, etc. Pour que l'autre s'attache à toi. Parfois, ça va être un esprit de service exagéré. C'est bon, le service, mais quand la personne est toujours là en train de vouloir, qu'est-ce que tu as besoin, etc., elle manipule pour que tu l'aimes. Parfois, on va manipuler aussi par le boudin, le silence, pour que l'autre se sente mal et que l'autre vienne vers soi, vers toi, pour qu'il s'intéresse à toi, etc. Donc, il y a toutes sortes de façons détournées d'essayer de chercher l'amour. Alors, la personne qui manipule, c'est en quelque sorte, elle dit, « Je vais faire tout ce que tu voudras pour que tu m'aimes. » Et puis, cette personne-là aussi peut être une personne qui se laisse facilement manipuler. Quand on pense, par exemple, aux sectes où il y a des forts leaders qui arrivent à faire faire aux gens ce qu'ils veulent. Vous n'étiez pas né encore en 1980, je pense, c'est en 1980, qu'un pasteur baptiste du nom de Jim Jones avait une congrégation et ils avaient démarré un camp en Guyane, Guyane anglaise. Et un jour, il a conduit 800 personnes au suicide en avalant un poison. 800 cadavres environ. Ils ont suivi un homme. Et la raison peut-être pour laquelle plusieurs ont aveuglément suivi cet homme, c'est parce qu'ils cherchaient peut-être un père en quelque part. Quelqu'un qui les rassure, qui soit source de sécurité, peut-être parce qu'ils n'avaient pas eu de père rassurant ou sécurisant. Alors, quelqu'un qui se laisse manipuler de cette sorte-là, on peut dire qu'il y a vraiment un problème d'identité. Il recherche une sécurité dans un autre être humain. Il y a différents problèmes existentiels par lesquels on peut passer, ou relationnels, que ce soit la dépression, l'anxiété, la peur, un sentiment de rejet, une vie instable, qui peuvent être significatifs du fait que cette personne-là a un problème avec son image d'elle-même. Qui est-ce qu'elle est vraiment? Et est en lutte intérieure. Et là, Dieu aussi veut agir. Il y a ce que j'appelle les dépendances. Et un bon passage dans la Bible sur cela, c'est dans Jean 4, quand Jésus rencontre la Samaritaine. Je trouve que c'est un passage qui est plein d'espoir. Jésus rencontre cette femme à un puits, à l'heure du midi. Et puis, bien sûr, Jésus a ce don de connaissance, il sait à qui il a affaire. Et cette femme, il lui demande à cette femme, « Donne-moi à boire. » Puis elle est toute surprise qu'un juif demande à une Samaritaine qui lui donne à boire. Puis ensuite, il dit, « Si tu savais qui est-ce qui te parle, c'est toi qui me demanderais de te donner à boire. » Elle lui répond, « Tu me prends-tu pour une cruche? Tu n'as pas de cruche. » Ça, c'est version un peu à la moderne. Mais Jésus, après avoir conversé avec elle, il dit, « Tu me connaissais, si tu avais mon eau à moi, tu n'aurais plus jamais soif. » Puis elle dit, « Oh, je suis très intéressé, comme ça, je n'aurais plus besoin de l'eau au puits. » Elle ne comprend rien. Fait que là, il décide de changer de créneau, puis il dit, « Va chercher ton mari. » Le lutin n'a pas. Elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Alors, elle dit, « Je sais, tu n'as pas de mari, tu en as eu 5. Puis celui avec qui tu vis, tu n'es pas marié avec. » Comme les Québécois, quoi, ils ne se marient plus. « Ras le bol du divorce, je ne me marie plus. » Là, elle allume, « Oh, tu es un prophète, parce que là, comment tu fais, tu sais ça, là? » Mais si on fait une parenthèse, si on dit, « Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit avant? Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ce qu'il lui a dit? » Il a vu cette femme, il dit, « Cette femme-là, elle a soif. Elle est en dépendance. Elle espère que c'est un homme qui va lui donner un sens de valeur, une raison de vivre. » Et elle a été échec après échec après échec après échec. Il y a peut-être beaucoup de relations amoureuses qui échouent parce qu'on pense que c'est l'autre le sauveur. On pense que c'est l'autre notre père. On pense que c'est l'autre qui va remplir ce que seulement Dieu peut remplir intérieur. On dépend extérieurement des gens dans les relations amoureuses, dans la sexualité, etc. Des fois, ça va être dans la drogue, la cigarette, dans tout ce qu'on retrouve dans le frigidaire. On va manger, manger pour essayer de remplir un vide intérieur. Puis ça ne marche pas, alors ça va être l'anorexie, la boulimie, comme lutte dans notre vie. On parle de sexualité. Un des problèmes rampants qu'on a aussi, c'est au niveau de la pornographie. Et aujourd'hui, elle est tellement accessible, c'est facile, un bouton, puis on a toutes ces images-là sur ordinateur. Et je ne sais pas qui aurait lu le livre « Cœur de femme, du rêve à la réalité » de John et Stacy Eldridge. Ça vous dit quelque chose? Si vous cherchez un livre, oui, quelqu'un a lu? Si vous cherchez un livre qui honore la femme, c'est bien celui-là. très beau livre qui donne à la femme sa juste valeur, parce que souvent, on la met au second plan par rapport au masculin, mais là, c'est vraiment un très bon livre. Et puis, en quelque part dans le livre, donc sont un couple, John et Stacy, John adresse le problème de la pornographie d'une manière que je n'avais jamais vue avant, que j'ai trouvé très intéressante. Et j'ai eu des gens en relation d'aide, des hommes mûrs, des hommes dans le ministère, qui, luttant avec la pornographie, n'arrivant pas à s'en sortir, on a abordé le sujet un peu avec cet angle-là. Et je vais vous lire une citation, je vais en mettre un petit bout sur l'écran dans un petit moment, mais je commence à lire une première partie. John avait écrit un autre livre avant, Indomptable. Ensuite, ça dit L'âme masculine, c'est quelque chose sur l'homme, sur la masculinité. Très bon livre aussi. Il dit, dans son livre Indomptable, il dit, j'ai averti les hommes. Donc là, je parle aux hommes en premier ici, en leur disant que le plus grand obstacle qui les empêche d'aimer une femme est celui-ci. Trop d'hommes soumettent leurs questions à Ève. Quelle question? C'est, est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce qu'on peut m'aimer pour qui je suis? Je ne suis pas sûr. Mais si une femme m'aime, elle va me rassurer, oui, j'ai de la valeur, elle m'aime. Bien sûr, vous, les femmes, pouvez vous penser, est-ce que vous avez la même question aussi, que vous soumettez à l'homme? Trop d'hommes, donc, soumettent leurs questions à Ève. Ils attendent d'elle qu'elle conforte leur âme. Ce glissement fatal se produit généralement à l'adolescence. Le père a été silencieux ou violent. L'occasion pour lui de se racheter auprès de son fils est passée. L'adolescence, c'est trop tard maintenant, c'est passé. La première ouverture qui s'offre dans le cheminement de l'adolescent est sa sexualité. Il prend soudainement conscience de l'existence d'Ève. Pour lui, elle paraît être la vie. Elle a toute l'apparence de la réponse à sa question. Suite de la citation. L'attrait que beaucoup d'hommes éprouvent pour la pornographie vient de là. Ce n'est pas une question de sexe. L'homme cherche une confirmation, une validation. La femme de la revue ou du site pornographique lui offre sa beauté. Elle fait qu'il se sent fort. C'est un angle différent. Il y a toutes sortes de façons d'aborder la lutte contre la pornographie dans nos vies. Mais là, il y a une question qui est posée par l'auteur et son épouse. Est-ce qu'on cherche une validation de notre identité? Est-ce que certains hommes vont la trouver au travers de la pornographie? Donc, tout ça pour parler en général sur nos dépendances qu'on peut avoir, où on devient esclave de quelque chose ou de quelqu'un, et on ne peut plus s'en passer. L'autre devient une béquille, l'autre devient ma raison de vivre, il me donne ma valeur, je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux vivre que par lui. Et ça dénote qu'il y a un vide intérieur. Et le monde est rempli dans les champs, les films de ce genre de mensonges-là. Ah, si seulement je trouvais l'âme sœur, alors ma vie serait comblée. Quelqu'un a dit un jour, si tu veux être heureux, ne te marie pas. Mais si tu veux rendre heureux, tu peux te marier. C'est une femme qui a dit ça. Ce n'est pas l'autre qui va te donner le bonheur. Il faut que tu trouves le bonheur seul pour le partager ensuite avec quelqu'un. Si tu n'es pas heureux seul, ne te marie pas avant de trouver ce bonheur avec Dieu. Puis après ça, tu pourras rendre quelqu'un d'autre heureux. Une autre citation sur l'identité. Quelqu'un a dit ceci, « L'identité qui n'est pas fondée sur Dieu est intrinsèquement instable. » Par exemple, si quelqu'un va bâtir son identité sur être un bon parent puis ses enfants échouent, bien, je pense que Dieu aura un problème d'identité. En quelque part, il pourrait dire « J'ai échoué avec Adam et Ève. » C'était le premier parent, puis ses enfants ont mal tourné. Puis ses petits-enfants aussi. Caïn, en tout cas. Alors, une autre citation le concernant, il va aussi dire « Une identité qui n'est pas basée sur Dieu conduit inévitablement à des profondes formes de dépendance. » Lorsque nous changeons de bonnes choses en choses ultimes, ces choses font de nous leurs esclaves. Donc, je viens de décrire certains comportements révélateurs qui peuvent mettre à la lumière dans nos vies, « Oh, là, je vois tel comportement que je peux avoir, telle chose », et qui peut être révélateur pour moi qu'il y a, en quelque part, la recherche d'un soutien extérieur parce qu'intérieurement, je manque d'assises solides. Je manque de soutien intérieur. Je manque peut-être, on pourrait prendre l'expression, de colonne vertébrale. Alors maintenant, je vais parler des essentiels d'une identité saine. J'en parle dans mon livre où je mentionne trois facteurs qu'on devrait retrouver dans une personnalité qui repose sur des assises solides. Un premier facteur, c'est avoir une bonne estime de soi. Je vais y retourner tantôt là-dessus. Mais où j'ai un sentiment de valeur, d'être important, d'être unique. On peut m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que je fais. Ce que je suis est plus important que ce que je fais, que les résultats de mes actions. Alors, mon identité, ce n'est pas dans mon métier. Comme mon identité, ce n'est pas « je suis un psychologue » ou « je suis un architecte » ou « je suis un professeur » ou « je suis un plombier ». Ce n'est pas mon identité. Je fais cela, mais ce n'est pas ça qui me valorise comme personne. C'est qui je suis comme personne qui me valorise, ce que Dieu a fait en me créant. Donc, ce n'est pas mon diplôme, ce n'est pas mon savoir, ce n'est pas mon expérience de vie, mais c'est la découverte. Je reviens au mot « identité » qu'on a défini plus tôt, que je suis une personne unique, séparée, distincte des autres, selon la nature de ce que Dieu a mis en moi. C'est l'estime de soi. Un deuxième aspect d'une personnalité qui a des assises solides, c'est avoir un sentiment de compétence et de capacité. Un sentiment, une certaine confiance en soi. Je suis capable, je peux faire ces choses, j'ai des talents, j'ai quelque chose à donner, je peux contribuer, j'ai des dons. Je peux aider les autres, je peux. Alors, ce sentiment-là dans sa vie, j'ai un sentiment que je peux contribuer, je suis capable. Et finalement, avoir une capacité d'entrer librement en relation. Je suis capable de gratuité dans mes rapports avec les autres. Je suis capable de don de moi-même. Je suis capable de service gratuit. Je peux donner l'amour, je peux recevoir l'amour avec l'autre. Face aux gens en position d'autorité, je peux être à l'aise, sans être dans la peur, sans me sentir inférieur, sans me laisser dominer non plus. Et je me reconnais en tant qu'homme, dans ma masculinité. Ce n'est pas parce qu'on est masculin qu'on est que masculin, on a des caractéristiques féminines aussi dans nos vies. Un jour, j'ai dit à ma femme, tu sais, moi aussi, je suis sensible, c'est ma rire. Mais il y a des caractéristiques qui sont plus du côté masculin, que je vais avoir plus, mais j'ai des caractéristiques féminines aussi. Je suis capable de tendresse, d'affection, de sensibilité. Des fois, je regarde un film, elle ne pleure pas, c'est moi qui pleure. Des affaires comme ça. Mais et une femme n'est pas que féminine, elle a aussi des caractéristiques masculines qui peuvent lui être attribuées. Elle peut être, bien sûr, tendresse, prendre soin, etc., mais aussi, elle peut avoir de la force. Elle a la force pour accoucher, la femme, ça prend beaucoup de force. Nous, on mourrait, nous, les hommes, probablement. Alors, elle est capable de force, elle est capable d'initiative, etc., qui sont des caractéristiques plus masculines. Mais on a un mélange dans nos vies. Mais en tant qu'homme, en tant que femme, de savoir, oui, je suis vraiment un homme, je suis vraiment une femme. Alors, ça fait partie aussi de notre capacité d'entrer librement en relation avec la personne de l'autre sexe. Mais pour revenir à l'estime de soi, bibliquement parlant, c'est important qu'on comprenne c'est quoi cette histoire d'estime de soi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de méfiance dans l'Église par rapport à tout ce discours-là. Ça, c'est, on dit, ça sent, ça pue la psy, cette affaire-là, estime de soi, c'est où dans la Bible, cette histoire-là de s'estimer, c'est pas trop des nombrilites accentués, style. Pour que les deux autres existent, il faut qu'il y ait une bonne estime de soi au départ. Alors, petite citation ici d'une histoire que j'ai lue sur Internet, que j'ai transformée un peu, qui dit ceci. « Au cours d'une soirée très romantique, le mari se pencha vers sa femme, la regarda très tendrement et lui demanda « Qui aimes-tu le plus au monde? » Il s'attendait à ce qu'elle lui dise « c'est toi ». La femme répondit plutôt « eh bien, c'est moi que j'aime le plus au monde ». Surpris de cette réponse, l'homme réfléchit un moment et lui dit « je dois t'avouer que c'est moi aussi que j'aime le plus au monde ». C'est-tu biblique? Alors, si on regarde ce que la Bible dit, quelques versets, quelques passages bibliques ici, Matthieu 22, verset 39, on nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La parole nous invite à aimer l'autre sur la base qu'on s'aime soi-même. On est censé s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on rejette en quelque part ce que Dieu a fait de nous. Éphésiens 5, 28, 29, c'est le passage où on dit que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Ça dit « celui qui aime sa femme s'aime lui-même ». Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais la nourrit en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. On est censé s'aimer soi-même et de là, bien se traiter soi-même et pour cela aussi bien traiter l'autre, l'épouse qui est notre propre chair. Donc, l'amour du prochain a comme modèle le fait de l'amour pour soi. Si je ne m'aime pas, je vais mal aimer l'autre. Si je ne m'aime pas justement, à juste titre, je vais mal aimer l'autre. Le psaume 8, versets 6 et 7, dit ceci. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Dieu t'a fait de peu inférieur à lui, et t'a couronné de gloire et de splendeur. Donc, t'as appelé à respecter cette créature que Dieu a fait de toi. Genèse 1, 27, quand Dieu a créé l'homme et la femme, avant, il disait c'était bon, arrivé à l'homme et la femme, il a dit c'était très bon. Il s'est pris comme modèle. Dieu t'a créé à son image, sa ressemblance. C'est pour ça que Dieu n'a pas de barbe. Parce que Dieu a créé aussi la femme à son image, sa ressemblance. Dieu est féminin et masculin. Il est 100% féminin, 100% masculin. Là, souvent, les gens ont de la peine avec cela. Ils disent, ouh, ouais, mais il s'appelle Père, puis Jésus est venu en forme d'homme. Mais souvent, on confond la fonction, le titre de Père avec la nature. Ce n'est pas la même chose. Le rôle du Père, on a besoin d'un Père qui règne dans l'univers. Ça, c'est une fonction. Mais sa nature, il est masculin et féminin. Et ce n'est pas parce qu'il a créé Ève en deuxième qui était de second ordre, de seconde importance, mais il a créé Adam en premier parce qu'il donnait une position, une responsabilité de chef. Il a donné des ordres à Adam, et Ève n'était pas encore là. L'homme est appelé à porter des responsabilités pour servir la femme, serviteur, chef-serviteur, autorité de service. Ensuite, il crée Ève, toujours à l'image de Dieu, pour venir appuyer, aider l'homme dans sa tâche de responsabilité et faire équipe ensemble, vis-à-vis, égal. Mais là, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai décrit ça dans mon deuxième livre, s'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, l'être humain est la seule créature créée à l'image de Dieu. Et le psaume 139 qu'on a lu, verset 16, nous indique, quand Dieu dit que avant, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe, ça indique, tu as été voulu, tu as été désiré, tu n'es pas une erreur. C'est assez extraordinaire de penser qu'il y a un temps où tu n'existais pas. C'est comme, là j'ai un fusible qui saute quand je pense à ça. Il y a un temps où je n'étais pas là. Puis là, je suis là. Allô? Salut, René! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, mon père m'a créé, il m'a... Ah, oui. Tum! Alors, j'ai été pensé. Tu as été pensé, tu as été planifié, tu as été voulu, tu as été désiré. Alors, des fois, on croit un mensonge. J'ai eu un accident, ma mère a voulu m'avorter, a manqué sa shot. Un bon Québécois a manqué son coup. Hein, peu importe. J'ai été une surprise. On ne s'attendait pas à ce que je naisse. Mais pour Dieu, tu n'as jamais été une surprise. Tu n'es pas un coup manqué. Tu as été voulu par Dieu. Je suis désiré, je suis unique, je suis incomparable. Dans Romains 12, 1 Corinthiens 12, on montre chacun un don particulier. On n'est pas un œil peut-être, mais on est une bouche, ou on est un orteil, ou on est un bras. On est des yeux dans le corps de Christ. Chacun a une place particulière dans le monde. Tu es unique et tu n'as pas besoin de te comparer à personne. Dieu veut que tu t'aimes toi-même pour qui tu es, ce que Dieu a fait de toi. Et on est appelé, quand je posais la question dans votre questionnaire de ce matin, c'est quoi ta réponse par rapport à ce que Dieu dit dans Psaume 139? Il y a un élément de réponse où l'auteur, David, dit « Je te célèbre! Je te célèbre! » Dieu veut nous amener à célébrer qui on est, car je suis une créature merveilleuse. Dire « Dieu, tu ne t'es pas trompé en me créant. Tu as fait un sacré bon travail. » Je l'ai peut-être abîmé un peu, là, ce travail-là, là, mais tu y travailles pour ramener les affaires. Tu m'as bien pensé, Dieu, et je te célèbre. Donc, l'amour de soi, l'estime de soi, ça repose sur la célébration de ce que Dieu a fait. Au final, c'est ça. Je me regarde, je regarde Dieu, puis je dis, Dieu, tu es incroyable, tu es extraordinaire. Tes œuvres sont belles et merveilleuses. Et tout ce que tu as fait, c'est beau et je le reconnais. Dieu veut nous amener à ce point-là. Il peut y avoir une étape à franchir avant d'y arriver, mais c'est là qu'il veut nous amener. Alors, la prochaine image, ça va être une citation tirée du philosophe danois Søren Kierkegaard, un théologien du 19e siècle, qui a affirmé quelque chose de très intéressant sur l'identité de l'être humain, et que j'aimerais mettre ici sur l'écran. Il va dire ceci, nous avons été configurés, ça c'est un langage informatique, mais qui est très parlant pour nous aujourd'hui, on a été configurés, voulus d'une manière particulière, configurés, premièrement, pour croire en Dieu, ensuite, pour l'aimer suprêmement, Dieu nous a créé pour qu'on puisse l'aimer, pas qu'il nous y oblige, mais il nous attire à lui, pour centrer notre vie sur lui, et il va terminer en disant ceci, plus que sur toute autre chose, pour construire notre identité en lui. Je répète. Kierkegaard affirmait que l'être humain n'est pas seulement configuré pour croire en Dieu de façon générale, mais pour l'aimer suprêmement, centrer sa vie sur lui, plus que sur toute autre chose, et construire son identité en lui. Alors, quand la vie nous a affectés, quand nos relations humaines sont venues à l'encontre de notre valeur comme personne, quand l'ennemi s'est mis à vouloir égorger, tuer, détruire, comme on l'a cité hier dans Jean 10:10, Jésus vient pour nous donner la vie en abondance, il veut nous ramener à retrouver notre vraie valeur dans qui nous sommes en Dieu. Il disait encore ceci, Kierkegaard, « Seulement si votre identité est construite en Dieu et en son amour, serez-vous capable de vous risquer à tout, de vous confronter à tout. Il n'y a pas d'issue pour éviter cette insécurité en dehors de Dieu. » Donc, tout nous ramène à notre relation avec Dieu pour qu'on puisse retrouver notre valeur originale que les épreuves de la vie peuvent avoir affectées et troublées. En application, on arrive à la fin. Puis on arrive à la fin FIM. Oh, es-tu drôle? Donc, si on veut revêtir notre véritable identité, on est appelé à se dépouiller de la vieille perception qu'on a de soi-même. Ça demande un processus de transformation. Et j'aime bien souligner ce mot-là. un processus. On voudrait tellement que les choses aillent vite dans notre vie. On aime tellement l'instantané. Hein? On pèse sur les pitons chez nous, je ne sais pas comment, on a une manette devant notre télévision avec notre DVD, avec notre lecteur de cassettes. On a encore des cassettes chez nous, ça arrive. On a des boutons pour tout, puis cling, 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 il faut que ça aille vite avec notre ordinateur, il faut que ça aille vite, les courriels, il faut qu'on nous réponde vite, et puis les textos et tout. On veut que ça aille vite, mais le cheminement avec Dieu, c'est un processus et on doit s'encourager à s'attendre à Dieu, même si parfois on ne voit pas le résultat tout de suite. Dieu nous transforme progressivement. J'aime bien ce passage de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Pour moi, de gloire en gloire, c'est étape par étape, bout par bout, un pas à la fois. Alors, l'idée, c'est de discerner, mais Seigneur, quel est le prochain pas que tu veux me faire franchir? Et en fin de semaine, il y a peut-être un pas, deux pas, trois pas que le Seigneur veut te faire franchir. OK, Seigneur, quelle est la prochaine chose que tu veux me montrer sur moi, sur ma valeur comme personne, sur mon identité? Et comment veux-tu m'y amener? C'est un processus. Pratiquement, avec ce que tu as entendu dans cette dernière heure, une application que tu peux faire, c'est OK, dans la liste des choses que j'ai exprimées sur les comportements révélateurs, est-ce qu'il y en a un, deux, trois ou plus? Combien? Qui te parle sur ta façon d'être aujourd'hui? Alors, il faut les regarder en face. Et c'est déjà un point de départ, c'est « OK, je ne veux pas juste fermer les yeux, les nier, parce que si on les nie, ça ne fait pas avancer. » Regarde-les en face, quels sont ceux-ci? OK? Puis de là, dire « OK, Seigneur, je veux t'inviter à intervenir. Tu me proposes de me restaurer dans ma valeur comme personne. » Alors ça, c'est déjà une ouverture de cœur. Dieu, je fais face, je t'invite à intervenir, et puis ce soir, on va continuer en regardant, mais comment est-ce que Dieu veut intervenir dans nos problématiques au niveau de notre identité? Comment est-ce que Dieu veut s'y faire, veut s'y prendre? Mais c'est déjà une ouverture de cœur, une invitation de Dieu, oui, agis dans ma vie, je vois ça. Et comme la Samaritaine, qui, elle, restait accrochée, et tu as offert quelque chose de nouveau qu'elle ne connaissait pas, des fleuves d'eau vive, de quelque chose de l'intérieur qui allait surgir en elle. Moi aussi, je veux quelque chose, juste tu déposes quelque chose à l'intérieur de moi. Je suis tanné de m'appuyer sur l'extérieur. Je veux te croire que tu peux faire quelque chose en dedans. Puis ce soir, on va poursuivre là-dessus. Je dis un mot de prière. Puis, je ne sais pas si à moins 5 on s'arrête ou quoi, mais j'ai un mot de prière. Puis après ça, s'il y a besoin d'intervenir ou des questions, Joël va prendre sa main. Eh bien, Père, on veut te bénir parce que tu es un bon Père. Et tu es présent ici ce matin. Et tu veux parler à nos cœurs. Jésus, tu as dit que tu étais doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Je suis doux et humble de cœur. Recevez mes instructions. Et tu as aussi dit, Jésus, qui m'a vu, a vu le Père. Et toi, Papa, tu es doux et humble de cœur. Et tu aimes tes enfants. Tu les as mis au monde, tu nous as mis au monde. Et pas, tu ne nous as pas juste mis au monde. Mais comme ça dit dans l'Épître aux Galates, tu es venu nous racheter du présent siècle mauvais. Tu es venu comme un héros qui sauve, nous sortir du bourbier. Et tu ne le fais pas à moitié, tu veux le faire au complet. Et on veut garder nos yeux fixés vers toi, Dieu, car tu es un Dieu qui est grand, bon et puissant, puis c'est toi qui veux le faire. On veut être rempli d'espérance, de foi. Puis on veut faire taire tous les mensonges de l'ennemi qui voudraient nous faire croire à quiconque ici que ce n'est pas possible. Qu'on est trop compliqué, on a de trop gros problèmes, puis on ne peut pas s'en sortir. On refuse ça dans le nom de Jésus, parce qu'on veut croire à la vérité qui nous rend libres. Alors merci par ton esprit, Père, de nous conduire sur le chemin de la transformation, pour qu'on devienne de plus en plus dans ce processus, hommes et femmes, à ton image, à ta ressemblance, de gloire en gloire, et qu'on puisse entrer dans notre destinée et faire être pour toi des flambeaux dans ce monde, des lumières qui vont éclairer autour de nous.